Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Personnages insolites, présentée par
Christine Afota
et Elisabeth Couget. Aujourd'hui, Christine, tu vas nous parler d'un médecin, d'un savant génial, dont le nom n'est peut-être pas tellement connu du grand public.
Tout au moins en Europe, car il est très célèbre au Vietnam. Il s'appelle Alexandre Yersin et c'est aussi, on va le découvrir, un bienfaiteur de l'humanité. Sa vie est incroyable, un véritable roman d'aventure. Il naît en 1863 sous le Second Empire et meurt à 80 ans en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une longue vie et un étonnant destin.
Voilà, il n'est pas français, il est d'origine suisse.
Oui, il naît le 22 septembre 1863 à Aubonne, dans le canton de Vaud, en Suisse. Sa famille protestante est membre de l'église évangélique libre et le milieu familial est marqué par l'esprit de probité, le puritanisme, le mépris des biens matériels propres aux calvinistes.
Ah, c'est ça.
Sa mère descend des Huguenots français des Cévennes, chassés par la révocation de l'édit de Nantes.
Et son père ?
C'est un brillant professeur de sciences naturelles et un entomologiste passionné par les insectes. S'il transmet à son jeune fils le goût et la curiosité scientifique, Alexandre ne le connaîtra pas, car son père meurt 3 semaines avant sa naissance.
Donc c'est sa maman, des recherches de son
sans
père.
Sans doute, bien sûr, et qui va aussi élever seul ses enfants. Sa mère s'installe à Morges, près de Lausanne, et ouvre, pour vivre, une institution pour jeunes filles.
C'est donc dans un environnement féminin très calviniste que le petit Alexandre, orphelin de père, va grandir.
C'est un jeune sauvageon qui bat la campagne, nage dans le lac, collectionne les insectes.
Comme le faisait son père.
Oui, et adore fabriquer des cerfs-volants. Tout le passionne, tout l'intéresse. Il se mue bientôt en élève studieux. En 1882, il obtient son bac et commence des études de médecine. D'abord à Lausanne, puis à Marbourg, en Allemagne.
Et oui, où Sainte-Élisabeth d'Hongrie est enterrée.
Ah bon ? Très bien. Dès ce moment, il prend l'habitude d'écrire à sa mère, dont il est très proche, 3 lettres par semaine en français. Toutes ces lettres seront conservées.
Elles vont constituer pour ses biographes une source extraordinaire d'informations sur les péripéties de sa vie.
Bien sûr. La vie d'une petite ville universitaire allemande comme Marbourg, avec ses confréries, ses duels au sabre, les beuveries dans les brasseries le soir, ne convient pas vraiment à notre jeune homme très studieux et très sérieux. Au bout d'1 an, il décide de continuer ses études en France. Et avant de partir, il achète à Marbourg un microscope perfectionné de la marque Carl Weiss, qu'il gardera toute sa vie.
Voici donc le jeune Alexandre Yersin, qui vient d'arriver à Paris à l'automne 1885.
Il y restera 5 ans, jusqu'en septembre 1890. Louis Pasteur vient de guérir un enfant de la rage, le jeune Alsacien Joseph Meister. Alexandre Yersin poursuit ses études à l'Hôtel Dieu et va faire là une rencontre déterminante avec Émile Roux, un disciple de Pasteur, qu'il introduit auprès du grand maître. Yersin participe dès lors aux séances de vaccination contre la rage.
Il assiste aussi à la création de l'Institut Pasteur et sera même le premier à y dormir dans une petite chambre qui restera la sienne toute sa vie.
Il s'intéresse à une nouvelle science, la microbiologie. Avec Émile Roux, il découvre la toxine diphtérique responsable de la diphtérie. À Berlin, pendant ce temps, Robert Koch a isolé en 1882 le bacille de la tuberculose. La thèse de doctorat de Yersin en 1888 portera sur la tuberculose expérimentale chez le lapin et lui vaut une médaille de la faculté de médecine de Paris.
Ah oui. Et il devient en 1889 le premier préparateur des cours de microbiologie de l'Institut Pasteur.
Il fait maintenant partie de la bande à Pasteur, de jeunes chercheurs ardents et tenaces, et il suit la rigoureuse démarche scientifique du maître. La même année, il obtient la nationalité française, donc il devient français. Il assiste aussi à l'exposition universelle dont le clou est la Tour Eiffel. Cependant, d'une indépendance d'esprit foncière, ce qui est plutôt rare à l'époque, et d'un profond individualisme, il se plie mal à la routine de l'Institut Pasteur et l'enseignement l'ennuie. Après 4 années de travail acharné au laboratoire de la rue d'Ulm, il décide de partir au loin.
Alors, 2 découvertes expliquent ce désir d'aventure.
D'abord, à l'Exposition universelle de Paris, il a eu la révélation enthousiaste d'un Orient, bon, bien sûr, un peu de pacotille. Et puis, il a découvert la mer. N'oublions pas qu'il est né en Suisse, plutôt la montagne.
Très loin, voilà, effectivement.
Donc, il découvre la mer à Grand-Camp, dans le Calvados. Il vient d'acheter une bicyclette Peugeot à Chêne et à Pignon. Nous sommes en 1889. Il sillonne la côte, part à la pêche au chalut, lit Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Il est ivre de mer, d'air, de silence et rêve d'aventures lointaines.
C'est décidé, il va partir assez loin, en Indochine.
Le vaste empire colonial français s'est enrichi 2 ans plus tôt seulement de l'Annam et du Tonkin. Alexandre Yersin obtient un poste de médecin militaire à la Compagnie des messageries maritimes, d'abord sur la ligne Saïgon-Manille, puis Saïgon-Haïphong. C'est du cabotage le long des côtes en mer de Chine. Il n'a pas vraiment beaucoup de travail, les gens se portent plutôt bien. Et de la passerelle, la vision est panoramique.
Alors avec ses jumelles, il observe la côte et note tous les détails sur les petits carnets.
Il prend des croquis et profite des escales pour visiter l'arrière-pays en remontant les fleuves. Il est conquis par l'Indochine et découvre émerveillé un petit village de pêcheurs, Na Trang, dont la rade est l'un des sites les plus grandioses de la côte d'Annam.
C'est un paradis encore vierge où Alexandre Yersin finira par se fixer. Ça lui plaît tellement.
Mais oui, pendant très très longtemps, jusqu'à la fin de sa vie. En juillet 1891, il ne résiste pas à la tentation de débarquer à Na Trang pour se rendre à Saïgon, à pied, par la voie terrestre. Les 500 km à parcourir constituent une véritable exploration. À l'aide d'une boussole, d'un chronomètre de marine, en sandales de corde et avec 5 boîtes de corned beef, il a 10 jours pour rallier Saïgon avant que son bateau ne reparte. Épuisé, trempé, il finit par rebrousser chemin. Quelques jours plus tard, il est saisi d'un accès de paludisme d'extrême violence, paludisme qu'on appelle alors la fièvre des bois, et ce qui lui confère une sorte de baptême d'explorateur et de colonial.
Alors, il rencontre Albert Calmette. N'oublions pas Calmette, c'est
BCG, c'est le bassi découvert par Calmette et Guérin. Calmette, alors, donc c'est le C de BCG.
Voilà, à Calmette, qui est arrivé à Saïgon en janvier 1891.
Oui, c'est une rencontre qui est organisée par Pasteur. Et une profonde amitié va lier les 2 hommes, Alexandre Yersin et Albert Calmette, pendant plus de 40 ans. Et à propos,
Calmette, oui, je crois
ça te rappelle quelque chose,
oui, exactement, le Figaro.
Voilà, le directeur du Figaro, le frère d'Albert Calmette, est assassiné par Madame Caillot, femme du ministre des Finances. Et puis, comme le Figaro avait écrit un article d'une grande violence sur l'augmentation des impôts, eh bien, Madame Caillot est venue tuer.
Un terrible drame qui a
beaucoup fait parler à l'époque.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, Albert Calmette va aider Yersin à réaliser ses rêves d'exploration.
Voilà, nous continuons à raconter la vie de Yersin qui a décidé finalement de quitter les messageries maritimes et il rejoint Calmette dans le corps de santé militaire des colonies.
Alexandre Yersin devient donc médecin de santé coloniale. Il rêve d'explorer le Vietnam. Grâce à Calmette, il repart cette fois en mission officielle afin d'explorer une région peu connue de l'Annam entre la côte, Na Trang et le Mekong. Comme moyen de transport, des chars à bœufs, des chevaux, des éléphants ou des pirogues. Quelques jeunes coulis l'escortent et c'est tout.
Alors il avance droit devant lui dans un pays mystérieux et sauvage. Il se lance dans l'inconnu et fait face à tous les dangers, parce que dangers, il y en avait.
Il traverse fleuves et forêts tropicales au milieu des cris de singes. Il est assailli par les sangsues, il fait parfois face à des fauves ou à des cobras. Il taille au coupe-coupe les buissons et tient le cap grâce à son compas de marine.
Il franchit des cols à 2000 mètres d'altitude, des rizières chaudes. Il embarque sur l'eau couleur jade et cabote sur les rivières.
Et tout cela, on le sait bien sûr, grâce à ses lettres à sa mère. Il est même blessé par des pirates et échappe de peu à la mort. Les pirates lui ont donné un coup de sabre et un coup de lance. Sa jambe est fracturée. Les pirates décampent, le croyant mort. Heureusement, ses connaissances médicales lui sauveront la vie. Il réussit, dans un triste état, à regagner notre angle.
Il réalise des cartes aussi d'une grande précision au cours de ce voyage et ajoute de nombreuses photographies à ses descriptions.
Oui. Et il note dans ses carnets tout ce qu'il observe. La vie des populations locales, les ressources, les coutumes, les habitats des tribus rencontrées, comme par exemple les Moy, une ethnie des Hauts Plateaux, qui sont grands, fiers et sauvages, qu'il admire et avec qui il sympathise. Et il va même vivre un temps dans leur village. Et le village des Moy est tout à fait spécial, puisqu'il n'y a qu'une seule maison immense dans le village, sur pilotis, où tout le monde habite ensemble.
Donc, lui qui cherchait la solitude et le calme.
Oui, mais cette compagnie-là, il l'apprécie.
Ça ne le dérangeait pas, voilà. Alors, voilà. Entre deux missions, il rentre en France pour faire part de ses découvertes et donner quelques conférences aussi. Son rêve était finalement d'être une sorte de nouveau Livingstone.
Dr. Livingstone, I presume. Alexandre Yersin, je présume. Sa deuxième mission, explorer les forêts et les rivières de la Cochinchine au sud de la Nam. Ces explorations dangereuses lui vaudront des éloges de Pasteur lui-même. Il découvre les villages Cham et l'antique civilisation du Champa.
Alors, entre deux missions encore, basé à Natrang, il devient médecin des pauvres.
Médecin des pauvres et indifférent à l'argent. Dans une lettre à sa mère, il écrit « Tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale. Oui et non. J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseil, mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. Je ne pourrais jamais demander à un malade de me payer pour des soins. Je ne fais pas payer ces gens. Demander de l'argent pour soigner un de ces malades, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie.
Ah oui, c'est ça. Alors, au cours de ces explorations, Yersin a découvert un vaste plateau d'herbes vertes à 1500 mètres d'altitude qui lui rappelle
la Suisse, bien sûr. Mmh. Et c'est un site magnifique, en plus à l'excellent climat. Il s'agit du plateau de Lan Biang. Et c'est là qu'avec l'aide de Paul Doumer, qui est le nouveau gouverneur de l'Indochine française, Alexandre Yersin va créer une station d'altitude, un joli village alpin en Indochine, où, loin de la chaleur accablante de la plaine, les colons, exténués par le climat et la maladie, retrouveraient le calme, le repos et la santé.
Oui, la ville de Dalat vient de naître.
Oui.
Et elle devait avoir la plus brillante fortune. Et ensuite, il y a eu une troisième expédition.
Oui, et c'est la plus longue et la plus ambitieuse. Il s'agit de rejoindre le Laos par la montagne et les torrents, puis de remonter vers la mer de Chine et Hanoï. C'est sa dernière exploration. Alexandre Yersin referme ses carnets d'explorateurs.
Nous sommes en 1894. Depuis le début de l'année, il y a une épidémie de peste qui se propage dans le sud de la Chine.
Elle fait rage à Canton, où on compte plus de 100 000 morts. Mmh. Elle vient de gagner Hong Kong, la colonie anglaise. À la demande du gouvernement français et de ses confrères de l'Institut Pasteur, Alexandre Yersin est instamment prié de se rendre à Hong Kong pour tenter de trouver une solution à cette épidémie de peste qui ravage la région.
Alors la peste, c'est un fléau qui terrorise les hommes de toutes conditions et de tout pays. La terreur de l'Occident pendant des siècles.
Elle est connue depuis au moins 3000 ans. Elle a fait, au XIVe siècle, 25 millions de morts. Elle réapparaît en France au début du XVIIIe siècle, en 1720, du côté de Marseille. Il n'y a aucune thérapie. C'est une maladie imprévisible et mortelle. Alexandre Yersin arrive à Hong Kong le 15 juin 1894, avec du matériel emprunté au laboratoire de microbiologie de l'hôpital de Saïgon. À Hong Kong, la panique est totale. Les rues, les quais sont déserts. De nombreux rats morts gisent sur le sol. Les maisons touchées par l'épidémie sont isolées, les quartiers infestés condamnés. Yersin remarque que la population européenne est relativement peu touchée par la peste.
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'elle vit dans des conditions d'hygiène très supérieures au mode d'existence des Chinois. Yersin est plutôt mal reçu à Hong Kong, parce que Hong Kong est une colonie anglaise et que les Anglais favorisent un autre chercheur, le docteur Kitasato, formé en Allemagne à l'école de Robert, un japonais donc, formé à l'école de Robert Koch.
Donc, avec la guerre, BCG. Contre Pasteur.
Oui, alors évidemment, les Anglais qui sont à l'époque germanophiles préfèrent soutenir la recherche japonaise formée par les Allemands. Mm-hmm. Voilà, et donc c'est une lutte Koch contre Pasteur et Kitasato. Mm-hmm. Voilà. Kitasato a beaucoup de moyens. Les hôpitaux anglais lui sont ouverts et Yersin n'a pas accès, lui, aux hôpitaux anglais. Il décide donc de travailler seul. Il se fait construire une petite paillote et y installe un laboratoire rudimentaire. Avec quelques piastres distribués à des matelots anglais qui ont mission d'enterrer les cadavres, il a accès clandestinement aux dépôts mortuaires. Il fait quelques prélèvements qu'il ramène dans sa petite paillote.
Où il étudie les bubons, signes cliniques de la peste.
Et voilà ce qu'il écrit avec émotion. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes, tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus à extrémités arrondies.
Le Yersin a isolé la bacille de la peste le 20 juin 1894, 5 jours après son arrivée.
C'est une grande date dans l'histoire de la médecine. Yersin a gagné de vitesse le chercheur japonais lancé sur une fausse piste. Il adresse à Paris des souches de peste et la description exacte et précise du Bassi qui sera lu le 30 juillet 1894 à l'Académie des sciences. Le Bassi va porter le nom de Yersinia pestis, la peste de Yersin, en l'honneur de son découvreur. Après Yersin, une prophylaxie devient possible. La lutte contre les rats, la dératisation, ce qui ne plaît pas tellement aux bouddhistes, et puis la lutte contre les parasites, c'est-à-dire les puces qui transmettent le bacille.
Voilà, le but de la mission est atteint. Alexandre Yersin peut retourner au Vietnam.
Alexandre Yersin s'attelle dès lors à la mise au point d'un vaccin pour prévenir la peste et d'un sérum pour la guérir. Ce sérum venant de cheval immunisé contre des cultures justement de Yersinia pestis. De sa base de Natrang, au sud de l'Annam, proche de Saïgon, il lève des fonds pour la recherche. Et ce n'est pas facile.
Voilà, on peut dire la peste soit de l'avarice.
Eh oui.
Des avaricieux.
Comme disait Molière.
Voilà, exactement.
Il étudie aussi les maladies infectieuses des animaux, ce qui est un véritable fléau dans un pays presque exclusivement agricole. Sa renommée est à présent mondiale. En 2 mois, il immunise contre la peste la souris, le cobaye, le lapin et le cheval. De retour à Canton, où il apporte le sérum, il parvient à guérir un jeune séminariste chinois atteint de la peste et puis d'autres malades. Appelé à Bombay, cette fois, il vaccine la communauté française.
Jusqu'en 1898, Yersin piste la peste à travers toute l'Asie.
Il sillonne l'Inde et la Chine en suivant les différentes épidémies de peste afin de perfectionner son sérum. La mortalité chute à 14%. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas encore parfait. Il faut tenter de mieux faire. À court de sérum, il rejoint Natrang où il veut installer un laboratoire pour produire du sérum à grande échelle. Yersin obtient à 20 km de Natrang une concession de 500 hectares où il élève des chevaux pour la fabrication du sérum.
En même temps, il crée avec Calmette les instituts Pasteur de Hanoï, Saigon et de Dalat.
Ainsi qu'un institut Pasteur à Natrang, qui comprend une ferme d'élevage. Et il fait aussi venir de Suisse un troupeau de 500 vaches pour améliorer la race locale. Il fait aussi venir de Suisse des cloches pour mettre au cou des vaches.
Pourquoi ?
pour éloigner les tigres. Et ça marche.
Ça fait pas mal comme arme. Voilà, nous reprenons la description de la vie de Yersa, qui est extraordinaire et qui est maintenant, qui s'est retrouvé de nouveau au Vietnam.
Oui. Où il s'est fait bâtir une grande maison carrée, comme un cube, sur la plage de Nha Trang, à 200 mètres de l'Institut Pasteur, à l'extrémité du village. De sa maison, il contemple la merveilleuse baie, les pêcheurs, les lanternes débarquent le soir. Yersa n'a pas déposé de brevet pour son vaccin. Il gagne de l'argent grâce au vaccin antipeste bovine qu'il vend aux éleveurs. Mais les frais de l'Institut Pasteur de Nha Trang sont considérables. Et Yersa veut vendre le sérum très bon marché, on l'a vu.
Il faut qu'il trouve une autre source de financement.
Et dès 1898, il décide de se lancer dans la culture de l'EVA, qu'il importe et qu'il réussit à acclimater au Vietnam. Yersa se fait planteur d'EVA.
Alors l'EVA dont on extrait le latex, qui est transformé en caoutchouc.
Le pneu a été inventé par Dunlop 10 ans plus tôt. Yersa devient le premier producteur d'EVA au Vietnam. La réussite est immédiate. Ses récoltes de latex sont achetées dès 1903 par les frères Michelin. C'est le pactole.
1900, c'est la belle époque. L'optimisme des sciences et des maladies éradiquées, c'est extraordinaire.
Ah, quelle belle époque, en effet. Ouais. Yersa étudie aussi l'agronomie, on l'a vu. Il fait des cultures en étage sur les collines. Il invente, alors là c'est vraiment drôle, il invente une boisson, le coca-cannelle, à base de cocaïne et de cannelle, un élixir qui bien entendu remonte beaucoup les gens qui travaillent pour lui pour combattre la fatigue. Mm-hmm. Et comment baptise-t-il son invention, le coca-cannelle? Le coca. Cette boisson de Yersa aurait pu devenir mondiale. Malheureusement, il ne donna pas suite. Son seul échec
commercial. Alors encore une fois,
un précurseur
là-dedans aussi.
Oui.
C'est vrai que jusque dans les années 1960, il y avait de la cocaïne dans le coca, comme dans la boisson de Yersa.
Autour de lui, à Nha Trang, vit une communauté agricole et scientifique. Dalat se développe aussi et devient une station de villégiature d'altitude pour les riches saïgonais. Elle se couvre de superbes villas coloniales et de bâtiments art déco. Yersa y développe les cultures florales et maraîchères.
Alors, dont aujourd'hui, Dalat est encore un grand centre de production.
Tout à fait. Et de 1902 à 1904, Alexandre Yersa crée et dirige l'école de médecine de Hanoï. Il a passé commande de sa première automobile à vapeur, une Serpollet qui roule à 25 km/h. Yersa sera le premier à circuler en auto dans Hanoï. Il fait aussi de courts séjours en France, à l'Institut Pasteur et à Morges pour embrasser sa mère qui meurt en 1905. Ses lettres, il va les écrire ensuite à sa sœur Émilie.
Et sa curiosité est tout azimut, tout l'intéresse.
Tout l'intéresse, qu'on en juge. La photo, c'est un excellent photographe. Il rencontre les frères Lumière. La musique, il achète un phonographe et des rouleaux de musique. L'astronomie, il installe sur le toit de sa maison à Nha Trang une coupole avec une grande lunette astronomique pour observer le ciel. La physique, l'électricité, il se plonge dans les manuels techniques d'électricité et fait installer un réseau de télégraphie sans fil.
Il pense même acheter un aéroplane. Il vient pour cela à l'aérodrome de Chartres.
Mais oui, qui est réputé pour ça à l'époque. Mais il y renonce parce qu'en fait, à Nha Trang, il n'y a pas la possibilité de faire une piste d'atterrissage. Et j'oubliais la mécanique, il répare lui-même ses voitures et ses motos. En Serpollet 5 chevaux en 1903, il fait Paris-Beauvais à 80 km/h. En 1905, il achète un récepteur de radio et apprend à émettre et à recevoir.
Alors tout en étant très précis dans les détails, il a la démesure des bâtisseurs d'empire.
Il ouvre de nouvelles stations, crée de nouveaux villages. Et pour parcourir ces 20 000 hectares, il faut maintenant des heures de pirogue et de cheval. Alors, il entreprend de construire des routes lui-même à l'aide d'un, entre guillemets, tuto, Improver Route Tracer.
Oh,
comment améliorer le tracé des routes?
Ah ben d'accord. Alors après la guerre de 14, Yersa va se lancer dans une nouvelle culture, le Cinchona.
Oui, c'est ça. Alors, je ne saurais pas dire comment ça se prononce. En tout cas, il s'agit de l'arbre à quinquina pour produire la quinine qui permet de traiter le paludisme. Le paludisme est endémique au Vietnam.
Ah, plutôt cinchona peut-être, non? Ou quinquona.
Cinchona.
Oui,
non
je
bon.
Sais.
En tout cas, un homme sur deux au Vietnam est atteint de paludisme. Et c'est encore une fois un immense succès. Grâce à Yersin et à ses plantations d'arbres à quinquina, l'Indochine pourra faire face à ses besoins en quinine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Yersin en produit plusieurs tonnes par an.
Mm-hmm. Il est devenu un des acteurs essentiels du développement de l'Indochine française.
Plantation et élevage continuent de s'étendre. Yersin est à présent comme un vieux berger à barbe blanche. Les bénéfices du caoutchouc et de la quinine ont fait de lui un homme riche. En même temps, pendant ce temps, son ami Paul Doumer, ancien gouverneur d'Indochine, est devenu ministre des Finances sous Aristide Briand.
C'est une nouvelle passion, la météorologie qui arrive. Il invente des machines extraordinaires pour sonder les nuages.
Sur la Terre, comme au ciel, du microscope au télescope. Il remplit ses carnets et publie des relevés. À Natrang, les enfants l'adorent. Il leur construit des cerfs-volants comme il le faisait enfant. On le surnomme Ong Nam, c'est-à-dire Monsieur Nam, à cause de ses 5 galons de médecins militaires.
1930, c'est la fondation du
Parti communiste.
Parti communiste, oui, c'est ça. Indo-chinois par Ho Chi Minh. Et ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'y croit pas du tout une seconde.
Oui. Hein. Tuer des hommes pour faire vivre des rêves, pour lui, c'est impensable. C'est un homme de raison. Ce qui le caractérise, c'est la simplicité, la droiture, une lumineuse clarté d'esprit, une patience minutieuse, une ténacité infatigable. Une ardente imagination aussi, portée par l'attrait de l'inconnu. Et puis, c'est un individualiste, d'un acier inoxydable, étanche aux passions, un célibataire endurci.
Eh oui, mais le temps passe, les amis disparaissent. Calmette, Roux, en 1931, et Paul Doumer, le président qui était abattu au pistolet par un fasciste russe.
Yersin est le dernier survivant de la bande de Pasteur. Des hommes jeunes et courageux qui bondissent sur les épidémies comme dans un roman chevaleresque. Les fléaux sont écrasés les uns après les autres en quelques années. Lèpre, typhoïde, rage, diphtérie, fièvre jaune, peste, choléra. Et des instituts Pasteur sont ouverts sur tous les continents.
À la fin de sa vie, il étudie les horaires des marées sur les côtes d'Annam.
Oui, et le Vietnam est alors occupé par les Japonais qui voient ça d'un mauvais œil en pensant qu'il s'agit peut-être d'un débarquement qu'on prépare. Mais non, depuis la terrasse ou sous la véranda de la grande maison carrée, sur son rocking chair, Alexandre Yersin observe les marées, le regard sur l'horizon. Pêcheurs et enfants entrent comme chez eux dans la vaste maison. 50 ans dans un village au bord de la mer de Chine. Le bonheur antique des jours et une dernière passion, la traduction des anciens grecs et latins qu'il essaye de lire dans le texte. Sur son bureau, les poèmes de Virgile traduits au crayon.
Alors il s'éteint le 28 février 1943 dans sa maison de Natrang.
Son enterrement est suivi par une foule immense. Il est inhumé sur une petite colline. À côté, un pagodon, donc une petite pagode, toujours ornée de fleurs et d'encens. Un honneur sans précédent pour un étranger. Yersin employait toute son énergie au service des Vietnamiens. Sa popularité et leur gratitude sont immenses.
Alors, toutes les villes au Vietnam ont des instituts de recherche ou des rues, des écoles qui portent son nom.
Et certains habitants à Natrang ont un hôtel consacré à Yersin, à côté de celui de leurs ancêtres. Il est devenu un bodhisattva. Mm-hmm. En 2014, il a été nommé citoyen d'honneur du Vietnam à titre posthume. Et sur la route mandarine vers Hanoï, si on oblique vers la pointe des pêcheurs, la vue sur l'horizon qu'émet tant Yersin reste intacte.
Et ben voilà, c'est très émouvant. Et merci Christine de nous avoir fait découvrir ce génie scientifique au parcours si singulier et dont la vie entière fut consacrée à la défense de l'existence humaine. Merci de nous avoir écoutés.
Merci
à bientôt.
Et à bientôt.